Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et on va parler d'Éric Zemmour et notamment ce qu'il préconise sur les prénoms. Il préfère les prénoms purement français, si j'ose dire. Nous sommes avec Alberta, qui est étudiante à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
J'imagine, en voyant votre prénom, que vous n'êtes pas favorable à l'intention d'Éric Zemmour.
Non, je ne suis pas favorable du tout et je me suis renseignée un petit peu. C'est une référence à la loi de 1803 et une année avant, Napoléon avait rétabli le code de l'esclavage. Donc je pense que c'est quand même une mesure profondément raciste.
C'est de quelle origine, Alberta ?
Alberta, c'est allemand à la base.
Eh bien, écoutez, nous allons en parler avec vous dans une seconde. Amandine.
L'essentiel de l'actualité d'abord, juste avant ça.
Un joli prénom, Amandine.
Oui, c'est un joli prénom, Amandine. Effectivement, Emmanuel Macron, lui, est en ce moment même à Roubaix, dans les Hauts-de-France. Le chef de l'État vient clore le Beauvau de la sécurité. William Galibert, vous êtes sur place pour RTL. Le président n'est pas venu les mains vides.
Oui, exactement. C'est un peu Monsieur Plus ce matin pour la police. Plus d'argent d'abord pour renouveler les véhicules, le matériel, pour s'occuper des bâtiments. Et là, Emmanuel Macron devrait annoncer une nouvelle rallonge budgétaire, plus de visibilité aussi des policiers dans la rue. Pour cela, des changements, notamment dans les horaires des agents, pour que les Français puissent sentir qu'il y a plus de bleu pour veiller sur eux. Emmanuel Macron appelle à une transformation de la police pour faire face, dit-il, à une transformation de la violence. La contrepartie, ça sera plus de transparence, plus de contrôle pour les policiers. Là, une délégation parlementaire va donc être créée pour surveiller notamment le travail de la police des polices, l'IGPN. Voilà, le discours a commencé il y a une vingtaine de minutes sous les yeux d'un certain Xavier Bertrand, adversaire déclaré pour 2022. Les deux hommes se sont salués très poliment, mais juste avant l'arrivée du président, Xavier Bertrand était un peu moins courtois. Il nous disait « Emmanuel Macron est passé à côté de la sécurité depuis le début de son mandat ».
Merci beaucoup William. William Galibert en direct de Roubaix. L'autre grand titre ce midi, c'est cette alerte météo, alerte rouge dans le Gard en raison des risques d'inondation après les orages les plus diluviennes. Écoutez Nathalie, elle habite à Calvisson, près de à l'ouest de Nîmes, où il a plu pendant 4 heures ce matin.
De grosses bourrasques de vent, et comme une petite tornade en fait. Des gros orages, des fortes pluies énormes. Nous, pour vous dire, on a un arbre qui s'est couché sur nos clôtures, notre trampoline qui s'est explosé sur sur la clôture du voisin. On a notre toiture qui s'est envolée. Avant, on a des tuiles qui sont envolées. J'ai l'école en face de chez moi, il y a des tuiles qui se sont soulevées aussi. Donc il devrait y avoir des dégâts, je pense, au niveau de l'école maternelle. Et là, je viens de recevoir un mail de l'établissement disant que surtout que personne ne vienne chercher les enfants, que le préfet avait fait passer une info de surtout pas se déplacer. Donc au contraire, non, ils ont préféré garder les enfants à l'école plutôt qu'il y ait des parents qui viennent et qui prennent la route pour rien, quoi.
Le témoignage de Nathalie qui habite donc à Calvisson dans le Gard, Peggy Broche. Il y a le Gard et toute une partie de l'Occitanie concernée.
Exactement, on a en tout 7 départements qui sont en vigilance. Le Gard en vigilance rouge, inondation et orage, plus vigilance orange pour crue, puisque la rivière La Vistre est actuellement en train de déborder, donc vraiment prudence. Et les orages sont très violents et importants, avec un important cumul de pluie à Quissac par exemple. On a eu 154 mm de précipitation, dont 98 mm en une heure, ce qui correspond à un peu plus d'un mois de précipitation.
Plus d'un mois en une heure.
En une heure, exactement. Donc c'est vraiment énorme. Soyez prudents. Autour, donc 6 autres départements de l'Occitanie sont en vigilance orange aux orages et puis inondations. L'Hérault, l'Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, la Haute-Garonne. Les orages vont se déclencher en deuxième partie d'après-midi. Essentiellement, ils seront à nouveau violents avec un important cumul de pluie et de fortes chutes de grêle attendues. Donc vraiment prudents. Sur le reste du pays, la situation est également orageuse entre les Pyrénées et les frontières du Nord avec des averses orageuses moins marquées. Quelques averses localement orageuses également attendues cet après-midi entre la Normandie et l'Île-de-France. Et de part et d'autre, en allant vers l'Aquitaine et vers la façade est, là c'est un ciel voilé, ça reste lumineux entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures, elles restent douces, de 21 à Cherbourg à 31 à Montauban, 25 à Paris, 27 à Limoges et 28 à Lyon.
D'un tout petit mot demain ?
Demain, encore orageux, notamment du sud-ouest au nord-est.
Merci beaucoup Peggy.
Merci Peggy, merci Amandine, il est 13h05.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Donc vous avez peut-être écouté ce matin Éric Zemmour avec Alba Ventura. Le polémiste était l'invité de Alba et il a dit notamment s'appeler Mohamed est une catastrophe parce que c'est un objet de discrimination. C'est une erreur aussi d'autoriser les Kevin et les Jordan. Alors, si vous vous appelez Kevin et Jordan, vous pouvez évidemment nous appeler. Mais cette affaire de prénom qui est une antienne avec Éric Zemmour, il en parle depuis plusieurs années. Est-ce qu'on doit, est-ce que, d'ailleurs, on n'a pas se posé la question puisqu'on peut appeler ses enfants comme on le souhaite. Quelle est votre réaction, Alberta?
Bah moi, ça me fait doucement rigoler. Je trouve que c'est vraiment un délire raciste assez avancé de penser qu'en fait, on pourrait interdire en fait les prénoms qui sont soi-disant français. Et moi, la première question que je me pose, c'est ça veut dire quoi un prénom français? Ça veut dire quoi une culture française? En fait, quand on sait
Française, ça, je peux vous répondre. Ça veut dire quelque chose, une culture française.
Mais ça veut dire quoi un prénom? Par exemple, mon prénom, ça, je pense que ça dérangerait moins Éric Zemmour qu'un Kevin ou qu'un Jordan, comme il disait. Donc Éric Zemmour n'aurait aucun souci en fait à discuter avec un Donald Trump, et qu'il faut quand même rappeler que la loi de 1903 qu'il a citée, c'est un an après, du coup c'est la question des prénoms, mais lui il cite ce régime napoléonien qui a quand même rétabli l'esclavage en France, et c'est sur cette base-là en fait qu'ensuite on parle d'assimilation à la française, et c'est absurde en fait. C'est quoi la prochaine chose que va nous demander Éric Zemmour? Il y a deux mois en fait, le président de la République, il nous disait de pas mettre de crop top parce que c'était pas républicain. Donc du coup maintenant, est-ce que Éric Zemmour il va nous demander de nous teindre les cheveux en bleu pour pouvoir être plus français? Est-ce qu'il va falloir changer de prénom,
mais est-ce que
de
vous comprenez
enfin, jusqu'à où ça va aller?
Mais est-ce que vous comprenez pourquoi il dit ça? Quelle est au fond la motivation? Parce que c'est toujours intéressant de chercher à comprendre, et puis après on peut évidemment discuter est-ce qu'on est d'accord ou pas. Quel est le fond, si j'ose dire, de sa pensée? Pourquoi il pense ça?
Moi, je pense qu'il pense ça parce que c'est quelqu'un qui est profondément raciste et qui dit des choses absurdes à la télé. D'ailleurs, on lui donne toujours la place à la télé. Faut voir qu'il a des chaînes d'antenne, en fait, comme aucun candidat, à la présidentielle, je pense. C'est quand même, il dit ça parce qu'il est profondément raciste, qu'ils veulent faire réagir, en fait, les réseaux sociaux et les médias. Et
vous pensez que c'est ça?
Bah, je pense que c'est ça. Parce
alors,
que
lui,
Éric
ce qu'il
Zemmour,
dit...
Il avait quand même dit que Europe Écologie Les Verts, c'était vert, donc du coup que c'était associé à l'islam. Donc quand on pense ça, je pense que c'est que soit on est très con, ou alors on est raciste.
Alors Alberta, laissons Éric Zemmour de côté et parlons simplement du modèle français qui a été l'assimilation. Pendant des années, les parents italiens et les parents étrangers demandaient à leurs enfants d'oublier leur culture d'où ils venaient et de ne plus parler, par exemple, pour un Italien à la maison, et de ne parler que français. Et de la même manière, ils donnaient à leur enfant un prénom qui était français, qui ne rappelait pas leurs origines. Tout cela au nom de l'assimilation. On considérait que pour s'assimiler, il fallait renoncer à la culture de laquelle on était un des éléments. Alors après, il y a discussion. Ça a fait, effectivement, ça a fabriqué des petits Français pendant des années. Le système pouvait fonctionner. Aujourd'hui, je pense que c'est plus compliqué de le mettre en place, l'assimilation, parce que la vie a changé, la mondialisation fait que c'est peut-être plus compliqué, parce qu'il y a plus de gens qui viennent de l'extérieur en France. Mais c'est ce qui est intéressant, Alberta, c'est d'échanger sur le fond et de voir que ce modèle assimilationniste, il est en difficulté aujourd'hui en France. Alors, je ne sais pas votre position là-dessus. Alberta, elle est là? Elle n'est plus là, Alberta?
Normalement,
je parlais tout seul, alors ça m'arrive.
Vous
ça m'arrive de parler tout seul. Oh, après la pause, Alberta. Après la pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous réagissez au 3210 à cette proposition d'Éric Zemmour ce matin sur RTL.
Oui. Vous avez dit vouloir interdire les prénoms étrangers. Ce sont les prénoms étrangers ou seulement les prénoms musulmans que vous voulez interdire?
Étrangers, pas seulement musulmans.
C'est une loi qui a été établie en 1803, qui a fonctionné parfaitement pendant un siècle et demi. Je pense que la défrancisation est un des problèmes majeurs. Il faut refaire des Français. Ce qui me gêne, c'est qu'au bout de 3 générations, on appelle encore ses enfants Mohamed. Et je pense que pour les gens qui s'appellent Mohamed, c'est
donc
une
c'est
catastrophe,
bien les prénoms
parce que c'est un objet de discrimination. Mais je pense que ça a été une erreur aussi d'autoriser les Kevin et les Jordan.
Êtes-vous choqué par cette proposition d'Éric Zemmour? Vous vous appelez Mohamed, Kevin ou Jordan? Appelez-nous au 3210. Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine, a été très choqué par ces propos. Il était l'invité de RTL Midi.
Mais qu'est-ce qui est le plus important en fait? Est-ce le prénom qui fait la valeur de la France ou seulement les personnes qui la composent? Est-ce qu'il serait capable de dire la même chose à, par exemple, à Ahmed Berabé, ce policier qui est mort sous les coups d'un terroriste. Quoi, si. Je pense aussi à d'autres personnes qui font la grandeur de la France. On parlait de Zinedine Zidane. Le prénom ne fait pas la valeur de ce pays, mais plutôt les personnes qui la composent et qui sont prêts, évidemment, à respecter ces valeurs de la République, etc.
Nous attendons vos appels dès maintenant au standard 3210.
Donc on termine avec Alberta sur ce que je lui soumettais. L'analyse assimilationniste qui justifierait cela. Et je voulais votre sentiment.
Oui, pardon pour le bug, il y a eu un problème de réseau. Moi, sur la question de l'assimilation, le problème, c'est qu'on le pose toujours en fait envers une partie de la population, parce que quand on discute d'assimilation, je ne pense pas qu'on demande, par exemple, à Bolloré, qui détient en fait la moitié des ports de l'Afrique de l'Est, de changer de prénom quand il va faire du commerce en Afrique. Mmh. Et je pense que l'assimilation qu'on demande aux gens, c'est l'assimilation des gens qui arrivent en France, et même y compris, moi, ma petite sœur, elle a un prénom arabe, elle est née en France, elle est plus française que beaucoup de gens, et elle est assimilée dans le sens qu'on dit, mais ça veut rien dire, l'assimilation. L'assimilation, c'est un truc, en fait, qu'on nous balance. Et même
ah non, si, ça veut dire quelque chose, l'assimilation. L'assimilation, c'est...
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est...
Non, mais ça veut dire quelque chose, Alberta.
On ne demande pas la même assimilation à tout le monde.
Bah, l'assimilation
en France... On
ne demande
pas la même assimilation à tout le monde.
Bah si, moi, on demande... L'assimilation, c'est quoi ? C'est assez simple, d'ailleurs. C'est de parler en France comme un Français. C'est d'accepter les mœurs qui existe sur ce pays depuis de nombreuses années, c'est d'accepter les coutumes. D'accepter les coutumes, c'est quoi ? Vous savez, c'est très large. Hein, c'est la manière de se marier, la manière de s'habiller, la manière de... C'est très large, hein, et effectivement. Donc, il y a
cette question de coutumes, par exemple. Mmh. Moi, je serais intéressée de savoir du groupe les coutumes que défend Éric Zemmour. Et j'ai quelques petites idées, parce que les lois qu'il revendique de Napoléon, c'est y compris les lois comme le code civil, qui en fait attachait totalement les femmes à leur mari. Quand une femme...
Oh,
en fait,
je ne crois
avait,
pas que ce soit ça pour Éric Zemmour. Je crois, il s'en expliquait là-dessus,
Zemmour, Éric Zemmour, il a quand même été accusé à plusieurs reprises de viol et d'agression sexuelle. Il a été quand même condamné
Alberta,
pour haine raciale.
Alberta, ne dites pas ça.
Que
il a été accusé.
Éric Zemmour, Alberta,
il n'a pas été accusé. Il n'a pas été. Ne dites pas n'importe quoi sur une antenne comme RTL. Il n'est pas accusé d'agression sexuelle ni de viol. Ce que vous dites est... Pardonnez-moi, je suis modérateur, je suis obligé de dire que ce que vous dites est faux. C'est ennuyé, parce que effectivement, Éric Zemmour, c'est un sujet tellement explosif que les uns et les autres, parfois...
C'est pas un mensonge que j'ai dit, c'est juste qu'il n'y a pas eu de procédure de justice, mais il y a de nombreux témoignages qui montrent
des agressions sexuelles
de Éric Zemmour.
Alberta, je vous répète, Alberta, je suis obligé de vous interrompre. Pardonnez-moi, ces sujets sont trop graves pour que vous puissiez dire, il y a des nombreux témoignages, ça ne veut rien dire. Il n'y a qu'une chose en l'espèce qui importe, c'est les poursuites judiciaires. À ce jour,
d'accord,
il n'y en a pas.
Alors, on n'est pas
point.
Sur le même...
Moi, je suis effectivement pour l'état de droit. Vous, peut-être pas, mais moi, oui. Effectivement, un homme qui n'est pas condamné, à mes yeux, et qui n'y a même pas d'enquête ouverte sur ce plan-là, le témoignage de quelqu'un, c'est un témoignage, mais c'est la justice en quête, je fais davantage confiance.
Oui, j'imagine que
en revanche,
comme pour Darmanin, qui est juste accusé, mais qui n'est pas...
Alberta,
coupable, mais du coup, y a pas de soucis.
Voilà. Il se trouve qu'il va avoir un non-lieu, Gérald Darmanin, là encore, sur ce sujet. Donc, ce que je vous propose, Alberta...
Il est quand même ministre de l'Intérieur, donc c'est un certain rapport de force pour imposer un non-lieu.
C'est ça, Alberta. Bon, je vois qu'effectivement, vous voyez, l'antenne est ouverte. Hein, je prends les auditeurs à témoin. L'antenne est ouverte, puisque manifestement, Alberta pend à des idées préconçues sur les sujets comme celui de Gérald Darmanin ou celui d'Éric Zemmour. Merci en tout cas, Alberta, et bonne journée. Vous êtes étudiante
Je suis étudiante à Toulouse.
Et vous êtes en quoi, si vous me permettez ?
Je suis en philosophie et en économie et je suis militante au Point Levé, qui est un collectif étudiant.
Faites attention aux préjugés. Vous êtes jeune, vous avez 21 ans. Faites attention aux préjugés. Je n'ai pas de leçons à vous donner, mais soyez prudente sur ce que vous dites des uns et des autres. Faites attention, ne jetons pas les noms en pâture comme cela. Il semble que sur certains sujets, vous ayez déjà un avis avant que la justice ne se soit prononcée. Merci Alberta, ça fait 17 minutes qu'on est ensemble. Je crois que vous êtes l'auditrice depuis le début de saison qui est restée le plus longtemps à l'antenne. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne.
On parle des prénoms, bien évidemment. Alors, on est avec Salim. On pourrait dire j'ai crié Salim et j'ai crié Salim, Salim. Ça irait. C'est deux syllabes. Bonjour, Salim.
Bonjour, Pascal.
Bon, vous êtes dans les Yvelines. Alors, Salim, c'est un prénom de quelle origine ?
Alors, Salim, je crois que c'est... Alors, moi, je suis d'origine algérienne, donc je dirais algérien, mais Salim, en arabe, ça veut dire saint. S-A-I-N-T. Saint d'esprit, saint du corps.
Salim, voilà. Vous êtes né... vous avez 40 ans, vous êtes né sur le sol français ou vous êtes né en Algérie?
Non, je suis né en Algérie. J'ai une grand-mère qui était française, qui s'appelait Gisèle. Ça, c'est un vrai nom français.
Bien sûr. Alors, je rappelle que l'Algérie était française et les gens ont du mal, évidemment, à imaginer ce que c'était, mais c'était un département, l'Algérie.
Oui, le 99e, si je me trompe.
Exactement.
Pas.
Bon, qu'avez-vous pensé de la déclaration d'intention, si j'ose dire, d'Éric Zemmour? Cette polémique des prénoms, que je trouve, pour tout dire, dérisoire, qui prend beaucoup très haut de place dans la société française et qui me paraît pas justifié qu'on en parle pendant des heures.
Bah justement, en fait, parce que je vous cache pas que moi, Zemmour, depuis quelques jours, je m'y intéresse un peu. Parce que voilà, il y a quelques temps, on entendait parler Zemmour par rapport à plein de choses, mais depuis quelques jours, je m'y intéresse parce que voilà, on parle de sa candidature, etc. Et hier, j'ai suivi pendant à peu près une heure et demie, son intervention sur une chaîne télévisée, interviewé par un certain journaliste que je nommerai pas. Et je trouvais que ce qu'il disait, et je suis pourtant algérien et musulman, que c'était intéressant. D'accord ? Sur plein de sujets, c'était intéressant. Sauf que, il a raison sur plein de choses. Enfin, quand il parle de l'immigration, quand il parle de l'insécurité, etc. Sauf que, ça fait pchit quand on parle maintenant des prénoms. Parce que je me dis que ça prend beaucoup de place. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est lui qui fait en sorte que ça prenne beaucoup de place ou est-ce que c'est les médias qui
on l'interroge là-dessus parce que d'abord ça excite les médias parce que c'est un point faible pour tout vous dire de l'argumentation d'Éric Zemmour et comme Éric Zemmour c'est un idéologue, tout doit rentrer dans la bouteille, il ne cédera rien parce qu'il ne cède jamais rien. Donc au lieu de dire, vous avez raison, les prénoms, tout ça n'est pas très très grave, au nom de son idéologie et de fabriquer des Français, comme il dit, il va jusqu'au bout du bout du bout, et il dit, il faut justement que des prénoms français. Donc voilà. Mais les médias sont parfois autant responsables, parce que les médias posent des questions.
Et pour moi, là-dessus, il se tient un peu une balle dans le pied.
Je suis d'accord avec vous.
Il pourrait reconnaître parfois que voilà, non, mais ça, c'est pas important. Parce que, encore une fois, sur une heure et demie, j'étais même très étonné parce que je l'ai vu à la télé, je lui dis, oh, encore lui, et je commençais à l'écouter. Et là, j'étais en train de dire, c'est peut-être pas très con ce qu'il dit, que c'est effectivement c'est ce qui se passe, etc. C'est intelligent, sauf que derrière.
Mais c'est le principe de l'idéologue. C'est pour ça que les idéologues, c'est toujours difficile. Moi, je préfère les pragmatiques. Un idéologue, il a une grille de lecture et il l'applique sur les sujets et sur tous les sujets. Et c'est difficile. Non, je vous en prie.
Il devrait, du coup, pour moi, lâcher du lest en disant
Ah oui, mais ce serait plus Éric Zemmour.
Parce que, justement, parce que moi, dans ce cas-là, c'est que cette personne-là m'intéressera. Et tant qu'il maintiendra ses positions sur l'histoire des prénoms, moi, je parle de l'histoire du prénom. Hein. Là, pour moi, j'ai du mal à croire à sa crédibilité tant qu'il ne lâchera pas sur l'histoire des prénoms. Parce que, voilà, être un homme intelligent, c'est de savoir aussi savoir
c'est vrai.
Reconnaître ses raisons et dire que parfois j'ai eu tort et mea culpa. Mmh. Et que voilà, j'avais une idée, elle est fausse, mais c'est pas le plus important. Vous m'interviewez, parlons économie, parlons sécurité, parlons vraiment des sujets importants et arrêtons de débattre pendant une demi-heure sur l'histoire des prénoms. Parce que pour moi, l'histoire des prénoms, c'est quelque chose de tellement ridicule.
Bon, pour conclure, vous êtes pour tous les prénoms possibles, évidemment, tant qu'ils ne sont pas injurieux pour un enfant ou handicapants pour un enfant, mais prénoms américains, prénoms d'origine...
Alors, je ne vous cache pas que mes enfants, je leur ai donné des prénoms qui font un peu international, parce que justement, parce qu'il y a eu quelque chose...
Ils s'appellent comment, vos enfants ?
Sarah et Nelly. Donc, pourquoi ? Parce que je ne voulais pas les mettre dans des cases. Et il a dit quelque chose qui a fait un peu tilt en disant qu'on discrimine les enfants en leur donnant des prénoms. Effectivement, j'ai toujours encouragé ceux qui étaient autour de moi de donner des prénoms, de ne pas fermer leurs enfants dans des communautés, d'essayer de leur donner des... pour que personne n'essaye de dire « Ah oui, mais toi, t'es juif, alors tu t'appelles Simon, t'es juif. Ah, »
Mais
toi,
par exemple, vous trouvez que votre prénom Salim vous a mis parfois dans une case ?
Oui. Et je vous cache pas que dans les années 2000, quand je cherchais un travail, j'ai même rajouté, et ça, quand j'y pense, j'en ai honte aujourd'hui, hein, mais quand je cherchais du travail dans les années 2000 et que j'y arrivais pas, j'avais même rajouté ce qui était faux, hein, parce qu'il n'existait pas sur ma carte d'identité, un prénom français à mon nom. C'est-à-dire que j'avais gardé Salim, mais j'avais rajouté un prénom à côté. Et pourquoi ? Parce que dans ma tête, voilà, c'était peut-être ça qui bloquait, etc. Mais aujourd'hui, même si c'est le cas, même si ça peut exister, aujourd'hui, je me dis que c'est pas mon prénom qui a fait de ce que je suis, mais au contraire, ma détermination, mon travail, mon courage, mon honnêteté vis-à-vis du travail, vis-à-vis de mes voisins, etc. C'est ça qui fait que Salim, c'est un Salim et pas mon prénom. Voilà.
Bah merci vraiment, c'est un témoignage formidable que vous nous avez donné, et très intéressant, très instructif également, instructif pour vos filles, ce que vous faites pour vos filles, instructif de l'anecdote que vous rapportez effectivement lorsque vous cherchez du travail. Merci vraiment beaucoup Salim. Salim, merci, il est parti. Merci vraiment beaucoup à vous. Charles est là, Charles qui est juriste à Lyon et qui nous appelle régulièrement, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci. Alors, cette affaire de prénom, et je trouve qu'on en parle de trop, quoi. C'est à chaque fois qu'on peut, maintenant on interroge Zemmour, et je l'ai fait aussi hier, mais c'est pour lui dire ça n'a pas de sens, cette affaire de prénom, mais à chaque fois on remet une pièce dans la machine.
Mais en fait, je pense que c'est exactement un marqueur idéologique, vous l'avez dit, c'est un idéologue, et je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas candidat à la présidence de la République. Parce que je pense qu'un candidat à la présidence de la République va chercher à rassembler et à ne pas diviser. Ou alors, c'est un moyen de dire j'avance d'une pièce et puis je reculerai ensuite pour rassembler au deuxième tour.
Ah, il ne recule jamais, Éric Zemmour. Pour le connaître un peu, je vous assure, c'est quelqu'un qui ne cède sur rien.
Eh bien, alors je pense donc du coup qu'il n'est pas candidat à la présidence de la République. Et je vais aller plus loin, Pascal. Je me demande si la décision du CSA, qui est l'origine de tous ces problèmes actuels, n'est pas entachée d'illégalité. Et je me demande si elle n'est pas susceptible de recours.
Ben, je crois qu'il y a un recours au Conseil d'État. Son avocat qui s'appelle Olivier Pardo, je crois, a imaginé un recours devant le Conseil d'État.
Eh ben, il a sans doute raison de le faire. En tout cas, c'est très certainement, il a trouvé une justification juridique parce que tant qu'il n'est pas déclaré ou qu'il est dans une énonciation d'idées, je pense absolument pas. Je pense en fait qu'il y a une conviction, il y a une conviction de ce qu'il est futur candidat, et je pense qu'en lui-même, il sait qu'il ne le sera pas.
D'abord, vous le pensez ?
Il aura peut-être pensé, c'est 506.
Ouais, ça c'est autre chose, mais ouais. Est-ce qu'il a envie ou pas ? On en parle après la pause.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.
Magasin.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Éric Zemmour est-il devenu un phénomène médiatique trop parisien ? Souhaitez-vous sa candidature à l'élection présidentielle ? Sera-t-il candidat ou non ?
Tu veux ou tu veux pas ?
Une chose est sûre, le polémiste a continué d'entretenir le flou ce matin sur RTL.
C'est moi qui choisis le moment.
Vous êtes en pleine ambiguïté.
Ben oui, et donc je peux faire durer ça tant que c'est mon intérêt.
Mais s'il était candidat, quel électorat toucherait Éric Zemmour ? L'analyse de Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Il était l'invité de RTL Midi.
Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il y a une progression des intentions de vote en faveur d'Éric Zemmour. Et il arrive à récupérer un électorat qui a tendance à vieillir quelque peu, qui a tendance à s'urbaniser un peu, même si c'est loin d'être un électorat parisien, qui est plutôt un électorat provincial, et qui récupère également une partie des personnes qui sont issues des catégories supérieures, plus que des catégories populaires.
Éric Zemmour est-il devenu un phénomène médiatique ? 32-10, 3-2-1-0.
Mais voyez ce qui est intéressant, comme il répond à Alba Ventura, et du coup ça fait une très très bonne interview. Alba Ventura lui dit « Vous êtes dans l'ambiguïté ». Et qu'est-ce qu'il répond ? Il dit « Oui ». Oui. C'est-à-dire qu'un autre homme politique aurait sans doute dit « Mais non, vous interprétez mal » ou aurait tourné autour du pot. Mais lui, comme il est cash, il dit « Je ne sortirai que lorsque ce sera mon intérêt », dit-il. Mais personne dirait ça dans la classe politique. Donc, il y a quelque chose de cash et de percutant et de différent qui d'abord donne des bonnes interviews, et on l'a vu ce matin, mais qui fait qu'il peut être différent dans une campagne électorale de ses concurrents si tant est qu'il se présente. Charles, qui est juriste à Lyon, et pour conclure avec vous.
Moi, j'y crois pas. Moi, je pense pas qu'il soit candidat. D'abord parce que techniquement, c'est difficile à faire. Et puis, quand on n'a pas de parti derrière soi, c'est quand même une logistique absolument énorme à mettre en place. Donc, je pense que là-dessus, il est réaliste. Mais c'est un éditorialiste, c'est un politologue, c'est un polémiste, et c'est surtout un écrivain à succès, vous le savez comme moi, Pascal. Donc, je pense qu'il cherche à marquer l'idéologie qui est la sienne, qui est une idéologie souverainiste, hein, il l'a déjà dit plusieurs fois, un peu identitaire, mais je crois que le mot identitaire a été un peu galvaudé, en tout cas pour l'identité culturelle française, et je pense qu'il va donner des idées aux candidats, il va insuffler un courant dans cette présidentielle qui semblait un peu décolorée, et décolorée notamment par Emmanuel Macron, je vous rappelle que son logo est blanc, hein, mais il est important, je pense, dans l'esprit de Zemmour, d'influer sur les idées et le climat politique. Et je suis sûr que c'est le but de tout écrivain convaincu. Lui, il est convaincu de ses idées, et bien il veut faire bouger les lignes, et il donne des signaux. Moi, pour moi, c'est exagéré, l'histoire des prénoms. Les Polonais qui sont venus en France, première moitié du XXe siècle, qui s'appellent Daniel ou Staszek, sont intégrés, non pas assimilés, mais intégrés dans la société française, aussi bien l'un que l'autre. Donc je pense qu'il connaît la réponse à ce débat. C'est un débat qui, sur le plan moral et libéral et légal, est impensable.
Non, mais vous avez parlé des Polonais. Il y a deux Polonais célèbres en football. Par exemple, c'était Kopa, il s'appelait Kopaszewski, et il s'est appelé Raymond. Lorsqu'il est né, bon, je pourrais citer Budzinski également à Nantes, et qui s'est appelé Robert. Vous voyez, c'est
Raymond Kopa qui habitait dans le Pas-de-Calais, je crois.
Bien sûr, bien sûr. Donc on voit qu'il y a toujours la même logique franciser, mais la France ne représentait pas non plus la même chose pour ceux qui venaient à cette époque-là. La société change, c'est ça qui est compliqué. Alors, j'ai envie d'être avec Gérald, mais restez avec nous, Charles, parce que vous pouvez intervenir. Ouais. Gérald qui habite Rennes. Bonjour, Gérald. Quelle est votre position sur ces prénoms qu'on donne aux petits Français. Gérald, une fois. Gérald, deux fois. Bon, Gérald n'est plus là, manifestement. Donc, je vais parler à Robertino. Bonjour, Robertino.
Bonjour, Pascal.
Vous habitez la Meurthe-et-Moselle.
Tout à fait. J'habite Longwy, à la frontière.
Qui est une terre d'immigration italienne.
Oui, tout à fait.
Il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus dans les années 30 en Moselle. Dont d'ailleurs Aldo Platini, par exemple.
Effectivement, c'est mon papa est venu en France juste après-guerre en 1948, et donc a intégré la sidérurgie.
Et donc vous êtes né, vous étiez né en 48 ?
Non, je suis né en 63 à Mont-Saint-Martin, donc comme mon frère et ma sœur. D'ailleurs, nous on est né en France.
D'accord.
Donc,
et votre père vous a appelé Robertino ?
Oui, tout à fait. Et moi, ma réflexion, c'est simplement de dire, c'est pas parce que je m'appelle Robertino que je me sens pas du tout français. Je me sens même beaucoup plus français, ou tout autant qu'Éric Zemmour. Je pense pas que le prénom influe sur l'intégration, et pas l'assimilation, l'intégration. Parce que moi, je me sens français, j'ai fait mon armée en France, mes études en France, je travaille en France, et je me sens tout autant français que n'importe quel français qui soit né de parents français ou de parents immigrés. Et donc, je ne vois pas du tout pourquoi on devrait appeler ses enfants autrement qu'avec les prénoms qui nous rappellent nos origines. Ça, pour moi, ça n'a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport entre le prénom et le fait de se sentir français.
Et comment vous avez vécu toutes ces années avec ce prénom
Écoutez, au départ, quand je suis arrivé à l'école, on l'a francisé, ce prénom. On m'a appelé Robert pendant des années.
À l'école
À l'école, oui.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on niait le fait que c'était Robertino.
Oui, tout à fait. Et encore maintenant, je dois avoir ma carte vitale qui est au nom de Robert et pas Robertino.
Mais pourquoi ?
Je sais pas, parce que c'était comme ça à l'époque. Moi, j'ai toujours bien vécu. J'ai effectivement été un peu... On m'a dit que j'étais un macaroni, que j'étais un spaghetti, tout ce qu'on pouvait dire à l'époque. Mmh. Ça ne m'a pas gêné outre mesure. Mmh.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que les profs nient le fait que vous vous appelez Robertino. C'est ça qui est...
Oui,
on voit bien, l'époque était différente. Aujourd'hui, évidemment, ça ne serait pas possible.
C'est sûr. Mais ce qui est assez drôle, c'est que moi, en France, donc je suis italien, mais en Italie, je suis français.
Eh oui, donc ça c'est le principe de ceux qui ont la double culture.
Mais je me sens beaucoup plus français qu'italien, ça c'est clair. Et je pense pas que le prénom entre en jeu là-dedans. Je pense que moi je remercie la France. Hein, je me vois pas habiter autre part qu'en France. J'irai pour rien au monde, j'irai habiter en Italie. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me suis marié avec une Andalouse, donc qui est fille aussi d'immigrés andalous, et eux, leur prénom vient de des grands-parents, en fait. Donc mon épouse s'appelle Thérèse parce que la grand-mère s'appelle Thérèse, etc. Mmh. Et eux aussi, on a francisé leur prénom.
Bah merci à Robertino, là aussi, témoignage intéressant de vous écouter. On va marquer une pause. Alors, je sais, on va pas parler que de ça quand même pendant toute l'heure. On peut aussi parler d'autres sujets sur Éric Zemmour, bien évidemment. Il était ce matin chez Alba Ventura. On parlait d'un phénomène médiatique. Il est crédité de 8, 9 ou 10% pour le moment, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, si tant est que ce soit exact, parce qu'il faut faire attention parfois avec les sondages. À tout de suite après la pause.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes l'abus d'alcool.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Un hommage à Johnny Hallyday a lieu toute la journée à Paris. L'esplanade Johnny Hallyday a été inaugurée ce matin devant l'Accor Arena avec une statue du rocker qui fait débat. Une cérémonie en présence de Laetitia Hallyday.
Il disait être né dans la rue, n'avoir de compte à rendre à personne. Une vie en mouvement qui nous a bousculés. Et pour que Johnny puisse enfin nous réunir autour de lui, de sa mémoire et de sa musique. Ancrée pour toujours dans le sol de Paris, la trace de son passage parmi nous. Pour qu'à notre tour, nous puissions la transmettre aux générations futures.
Le chanteur nous a quittés le 5 décembre 2017. Vous êtes fan de l'artiste. Quelle est la chanson de Johnny qui vous parle le plus ? Diego est-il un prénom qui peut plaire à Éric Zemmour, Pascal Pro ?
On va lui poser la question, il est 13h42 et nous aimons en direct lorsque des journalistes de la rédaction viennent nous voir. Steven Bellery arrive à l'instant de l'Accor Arena de Paris et il a vu cette esplanade Johnny Hallyday. Il y avait beaucoup de monde hein, d'abord.
Ah oui, un gros millier, ouais, presque 2000 personnes qui est... Ce qui est toujours assez impressionnant, c'est qu'ils viennent de partout. Les gens me disaient, on s'est levé à 5h du mat, on est venu du territoire de Belfort, on est venu du Pas-de-Calais. J'ai croisé une dame qui vient de Suisse spécialement pour l'occasion.
Bon, et vous avez vu cette statue. Et cette statue, elle fait polémique, notamment la moto.
C'est une moto bleue, une Harley Davidson qui a vraiment appartenu à Johnny Hallyday, qui a été... allégé de son moteur, qui est installé en haut
d'un
mât. Pourquoi
elle est allégée de son moteur ?
Bah, il voulait pas le laisser pour des raisons peut-être de sécurité, de poids, puisque donc elle est vraiment accrochée sur un mât, simplement un mât de 4,75
m. Parce qu'on m'a dit également que c'est les écologistes qui avaient réclamé que ce moteur ne soit pas présent dans la moto.
Déjà, la symbolique de la moto avait embêté la mairie de Paris et les écolos à la
mairie
de Paris.
Et donc on a enlevé le moteur.
Le moto n'existe plus. Mais les fans de Johnny me disaient c'est ça, c'est Johnny, c'est tout
Bien
Johnny,
sûr.
C'est la musique et c'est la moto. Et d'ailleurs, la cérémonie s'est ouverte par une arrivée de bikers. Tout moteur hurlant autour de cette esplanade de Johnny Hallyday. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils l'ont mise sur le côté de l'esplanade. Elle n'est pas au milieu, donc elle est vraiment sur le bord de la route qui longe la ligne 6 du métro parisien et le ministère de l'économie et des finances. Elle est cachée sous les arbres. Elle n'est pas si haute, donc elle fait 4,75 m. Et beaucoup de fans me disaient, ce qui est dommage, c'est que dans quelques mois, je pense qu'elle sera déjà dégradée ou qu'il y aura peut-être déjà des pigeons qui auront élu domicile sur cette moto.
Bah, en tout cas, Steven, vous êtes délicat et nuancé, mais je ne vous sens pas emballé comme Christo par cette moto.
C'est pas quelque chose qui m'a ému, disons-le. Oui. Voilà, c'est une symbolique. Beaucoup de fans m'ont dit qu'ils auraient rêvé d'un buste, d'une vraie statue. Là, c'est une sculpture de Bertrand Lavier, un plasticien français qui est très renommé. C'est une symbolique face à une salle de spectacle. C'est surtout, je pense, le plus important, c'est qu'il y aura un lieu de recueillement maintenant, aujourd'hui, en France. Et c'est ce que les fans me disaient tout à l'heure. Il y aura enfin cet endroit où on pourra venir penser, chanter, se recueillir maintenant, parce que l'église de la Madeleine ne donne plus ses messes en son honneur.
Il y avait quelqu'un qui disait dans votre reportage, moi je suis allé à Saint-Barth, je peux bien aller à Paris. Ah. Je ne sais pas si vous êtes allé à Saint-Barth sur la tombe de Johnny. Merci en tout cas d'être passé par le studio. Et puis le mieux, de toute façon, c'est d'aller la voir, cette statue. Et ce soir, il y a un concert.
Un concert qui est diffusé sur France 2 Hommage. Là aussi, tous les artistes ne sont pas au rendez-vous. Ça, il y a toujours un peu de polémique autour de Johnny.
C'est-à-dire ?
Ben, par exemple, son harmoniciste a décidé de ne pas venir parce qu'on ne lui laissait pas la liberté de faire son solo d'harmonica sur Gabriel ou au moment où il le désirait. D'autres artistes comme Pascal Obispo ne viennent pas. David Hallyday et Laura Smet ne sont pas là.
Voilà, ah oui ?
Ça n'est jamais très rose.
Ah, j'avais pas vu ça comme ça, effectivement. Ben, merci. Merci beaucoup de ces renseignements. Johnny Hallyday, Johnny, c'est pas forcément le prénom le plus français qui existe, Johnny, c'est plutôt américain au départ. On aurait pu poser cette question finalement à Éric Zemmour ce matin. Les Français les plus célèbres, c'est Zinedine Zidane, c'est Johnny Hallyday aujourd'hui, c'est Omar Sy. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément des prénoms de culture purement française. Avec qui nous pouvons être? Avec Annie. Bonjour Annie.
Bonjour Pascal.
Et merci. Vous êtes la première auditrice qui va être d'accord avec Éric Zemmour, si j'en crois ma fiche.
Ah, écoutez, d'abord, je voulais vous dire que vous êtes mon idole.
Bon,
je me laisse Pascal Praud, j'adore. Et Monsieur Zemmour aussi, j'adore. Oui,
je ne sais pas si vous allez arranger mes affaires en disant chère Annie. Oui, non, mais vous vous assumez, mais c'est pour moi.
Non. Vous avez des points de vue très courageux. Et j'apprécie. Et voilà. Et j'aime Monsieur Rouffiol et Madame Dornella. Bon. Voilà.
On est là sur RTL, chère Annie. Bon. Moi, je trouve que cette polémique est dérisoire et je pense que Éric Zemmour se trompe sur cette affaire de prénom. Que, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est un idéologue. Il veut tout faire rentrer dans la bouteille, même les prénoms. Bon, et au nom de la francisation, on en arrive à des choses qui me paraissent ridicules, disons-le. Voilà, si Zinedine Zidane veut s'appeler Zinedine, je vois pas où est le souci. Annie, votre avis?
Eh bien, mon avis, je suis entièrement d'accord avec Monsieur Zemmour. La France, tout fout le camp. Moi, je suis des années 60, 70. Faites l'amour, pas la guerre. On pouvait se promener en mini-jupe. On était libre et on n'avait pas ces carcans. Dans 20 ans, ça sera la charia chez nous, les talibans. Et ça commence.
Non, mais on est loin du prénom. Vous voyez bien qu'on est loin du prénom quand même. Vous êtes sur la charia et les talibans.
Eh bien, oui, mais je suis ravie de m'appeler Annie. Et non.
Mais quel est le rapport avec les talibans? Franchement, je veux dire, moi,
C'est la culture. M. Zemmour est en train de défendre nos valeurs, notre culture judéo-chrétienne, et je suis en osmose avec lui.
Mais on peut défendre, ce qui est mon cas, la culture judéo-chrétienne, notre histoire, nos mœurs, pourquoi pas, et considérer que avoir un prénom étranger ne percute pas cette culture-là.
Ça dépend les prénoms aussi.
Il y a des prénoms de l'étranger que vous acceptez, des prénoms de l'étranger que vous n'acceptez pas.
Ça vient toujours de toute cette révolte, tout ce qui se passe dans les cités, tout ça, c'est toujours les mêmes prénoms qui reviennent.
Donc en fait, vous, ce que vous n'aimez pas, c'est les prénoms musulmans. Dites-le clairement à l'antenne, ce que vous n'aimez pas, c'est ça.
J'assume complètement que ce sont tous ces gens-là, tous ces Arabes, tous ces Noirs.
Non, Annie, je vous arrête. Voilà. Non, sur l'antenne d'RTL, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça, c'est, on ne peut pas stigmatiser toute une catégorie, toute une communauté, comme vous venez de le faire à l'antenne. Je suis désolé, Annie, c'est très rare que je le fasse de cette manière-là, mais vous ne pouvez pas, je peux pas laisser dire à l'antenne ce que vous venez de dire. C'est pas possible, puisque c'est de la stigmatisation, et c'est considérer que tous les musulmans sont ou agissent de la même manière et de ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des soucis dans les cités. Ce qui est vrai, c'est que parfois, ce sont des gens d'origine étrangère qui sont les responsables de ce qui peut se passer. On le voit très bien dans Bac Nord. On en a parlé la semaine dernière. C'est une réalité. Mais vous ne pouvez pas enfermer toute une communauté derrière un même regard. Il est 13h49. Dites-moi, c'est une émission... il est où, Laurent Tessier ?
Il est là.
Bon, Laurent, on ne filtre pas, nous sommes d'accord, les auditeurs, on le sait bien. Enfin, on ne filtre pas. On a un premier échange, d'ailleurs, c'est l'occasion de saluer les standardistes. Il y a Philippe, il y a Florence, il y a également...
Victor,
qui est là.
Et Olivier,
bien
sûr.
Mais effectivement, on ne contrôle pas ce qu'ils vont dire, bien évidemment. Les auditeurs s'en rendent compte. À tout de suite.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Olivier, la page Facebook, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. François partage la position d'Éric Zemmour. Son discours est fondé sur la réalité de notre histoire de France. À l'inverse, pour Paul, Éric Zemmour est resté bloqué il y a 200 ans. La France évolue, mais lui non. Alexandre nous écrit, mes filles s'appellent Kayla et Ayana, alors elles ne sont pas françaises, c'est ça. Ces paroles sont discriminatoires. Et on termine avec Fernand. Parti comme ça, il va falloir aussi modifier les noms de famille pour être parfaitement dans les clous. C'est une aberration.
Fernand, en tout cas, c'est un prénom ancien. Il y a peu de Fernand aujourd'hui dans la jeune génération.
Appelez-nous si vous l'êtes.
Bonjour Laurent.
Rebonjour. Et vous pouvez nous appeler sur d'autres sujets au standard. Vous avez sans doute vu, Pascal, ces images de l'Arc de Triomphe enveloppé par plusieurs centaines de mètres carrés de tissu transformé en gigantesque paquet cadeau.
Ça vous plaît ?
Jusqu'au 3 octobre. Pas du tout. C'était le rêve de jeunesse de l'artiste Christo qui avait déjà emballé le Pont Neuf en 1985 à Paris. Mmh. Alors cet art vous dérange-t-il ? Êtes-vous choqué de voir l'Arc de Triomphe
14 millions
enveloppé
d'euros.
Par du tissu ? À quoi ça sert ? 32,10.
Ça a coûté 14 millions d'euros.
Et pas de subvention publique.
Non, bien sûr, c'est un fonds privé. Mais alors, il y a des gens qui ont 14 millions à perdre, si j'ose dire, pour emballer l'Arc de Triomphe. C'est intéressant. Monsieur...
Ça fait cher le drap. Hein.
Ça fait cher, oui. Bonjour. Vous avez entendu la voix de Jean-Alphonse Richard.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Vous allez attendre quelques secondes peut-être parce qu'on parle de Johnny Hallyday.
Avec plaisir.
Johnny, bonjour. François.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour, vous habitez Deauville. Vous l'avez vu ce monument dont nous parlait Stéphane Bellery tout à l'heure ?
Non, je suis pas sur Paris. Oui, vous voulez parler de Johnny, la guitare et puis l'Harley, quoi.
Oui.
Oui, mais c'est sympa. Moi, je trouve ça très, très bien. Pour une fois qu'on peut faire des choses qui représentent une personne qui n'est plus là. C'est... Et puis, il mérite ça parce qu'avec tous les impôts qu'il a ramenés à l'État, je pense qu'ils peuvent bien faire ça. Hein. Mm. C'est un bon contribuable. Dites, c'est le Michael Jackson français, notre cher Johnny. Hein. Il n'a pas été remplacé. Il est comme Claude François, vous voyez ce que je vais vous dire.
Je ne sais pas si Johnny serait content qu'on le compare à Claude François.
C'est non, pas... je ne dis pas comparer. Non, mais c'est-à-dire, Claude François, c'est un grand pour les spectacles également, vous voyez ce que je veux vous dire. Mmh. Hein, pour une fois qu'on peut parler des Français, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'autrement, pour rivaliser avec ces gens-là, il faut Michael Jackson, il faut les Beatles, si vous voulez, pour attirer les grandes foules. Il n'y a pas de beaucoup d'êtres humains sur la planète qui fait ça. Hein. Vous savez, la planète, c'est 7 milliards de personnes, mais regardez bien, vous allez compter par quelques dizaines, je pense. Hein. Donc,
vous l'aviez vu sur scène, peut-être, Johnny ?
Oui, je l'ai vu, oui.
Vous l'avez vu où ?
Je l'ai vu à Caen. Oui, au Zénith. Hein.
Et vous l'aviez vu en quelle année, vous vous souvenez ?
Oh, ça a une vingtaine d'années, 25 ans.
Vous aviez apprécié ?
Ah oui, très très bien.
Vous avez des disques de Johnny, vous en écoutez régulièrement ?
Oui, naturellement, comme beaucoup de gens, mais je ne vais pas vous dire que j'ai les grands posters et j'en fais une tapisserie. Hein.
Quel est, par exemple, le disque que vous préférez, que vous aimez écouter ?
Ah, je pense une des plus grandes, c'est Que je t'aime. C'est réaliste. Une
que je
très,
t'aime.
Très, 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 très réaliste.
Je crois que c'était Gilles Dubois qui l'avait écrit de mémoire. On est en 70. Et effectivement, notre ami Damien Béchiot, qui est très concentré, va pouvoir, j'en suis persuadé, nous proposer quelques notes de musique de la chanson dont vous parliez. N'est-ce pas, Damien ?
Parce qu'elle est très, très réaliste. Elle fait monde à l'insens, quoi, cette chanson-là. Mmh. Et puis, c'est pas ça. C'est un homme qui avait du charisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a quand même traversé le Parc des Princes. Il faut le faire. Hein. Je sais pas. C'est même un miracle qu'il arrive au bout. Parce que vu la foule, simplement, un être humain pousse 10 kilos, vous vous rendez compte de la pression qu'il y avait. L'hélicoptère avec Michel Drucker, moi, j'ai trouvé ça formidable. Attendez, il n'y a pas beaucoup de grands hommes de chansons qui ont fait des spectacles. C'est lui-même qui voulait rechercher un truc inédit. Il voulait
François,
pas faire comme les autres,
hein. Voilà ce que j'ai dit tous les jours lorsque Jean-Alphonse Richard entre dans le studio. Mais bon, il ne répond pas pour le moment. Il ne répond pas pour le moment à mon amour. Mais il est là quand même tous les jours à 13h56, Jean-Alphonse, parce que c'est l'heure du crime.
L'heure du crime, et aujourd'hui, quel crime ? 83 meurtres. 83 meurtres, Pascal, je n'exagère pas. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Mikhaïl Popkov. C'est l'un des tueurs en série les plus redoutables de l'histoire. 20 ans de crime. Et tout récent, puisque ça s'est passé entre 92 et 2012. C'est l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Je vous rassure tout de suite, il est sous les verrous. Et comment a-t-il réussi pendant toutes ces années à faire autant de victimes, uniquement des femmes ? Il y a un seul homme qui a été tué dans cette histoire. C'est parce qu'il était policier, il avait un uniforme et il enquêtait sur ses propres crimes. Vous voyez, comme quoi on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et il a pu déjouer comme ça pendant des années les recherches de la police et évidemment de la justice.
Quel est le pire serial killer français ? Alors, c'est Petiot, c'est...
Un français, alors vous me posez une colle, là, je vous dirais ça, il faut que je regarde. Mmh. Non, honnêtement, vous me posez une colle, non, parce qu'après vous avez Fourniret aussi. Il ne faut pas l'oublier, je ne pense pas que ce soit
Petiot.
Mais
le docteur Petiot, il y avait également Landru, forcément, Landru, dans les serial killers français.
Il faut regarder.
Ce n'est pas une spécificité française.
Non, mais enfin, on est pas mal placé quand même. Non, le record, ce sont deux Sud-Américains. J'oublie le nombre de victimes, mais là vous êtes à 83. Donc on doit être autour d'une centaine, mais dans des cas très particuliers. Là, c'est un serial killer de femmes, uniquement.
Merci Jean-Alphonse Richard. 14h30, c'est à la fois passionnant, je le dis tous les jours, mais c'est vrai que les sujets sont rudes.
Ce sont des histoires réelles qu'on raconte et qu'on essaie de mettre aucun détail.
Et que vous racontez bien.
Et avec rigueur, parce que voilà, sans spectacle inutile.
La pause, le flash du Johnny et d'autres sujets peut-être pour vous jusqu'à 14h30. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est 14h. Le flash avec Sébastien Rouxel.
Bonjour à tous, on commence avec ces violents orages en Occitanie, plus particulièrement dans le Gard, placé en alerte rouge. Aucune victime à déplorer pour le moment, mais plusieurs interventions des sapeurs-pompiers pour venir en aide à des personnes coincées par les eaux dans leur voiture. La préfecture recommande à la population de limiter au maximum les déplacements. Des portions de l'autoroute A9 ont été inondées. La circulation des TER est interrompue entre Nîmes et Montpellier. Depuis ce matin, il est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie en seulement 2 heures dans certaines communes. Gauthier de Lombugard a pu joindre il y a un instant Manon, une boulangère du Chaud, c'est dans le Gard.
Le village a pris l'eau à plusieurs endroits, dont moi à la boulangerie aussi. J'avais de l'eau à m'immoler. La jet de ma voisine aussi a enlevé l'eau de chez elle, parce que si on n'enlève pas l'eau de chez elle, ben moi je continue à prendre l'eau par infiltration. On est tous là en train de s'entraider. Hein. Sur au rond-point de l'Olivier, les voitures avaient de l'eau jusqu'en haut des roues. Au niveau de la mairie, il y avait plus de 20-30 cm d'eau. Bon, ça s'est arrêté de pleuvoir, hein. Mais pour l'instant, on nous a dit de rester à la maison, hein, parce qu'il annonce pour cet après-midi et demain.
Témoignage recueilli par Gauthier de Lombugard. 200 pompiers sont attendus en renfort dans le Gard. On en vient à ce discours fleuve d'Emmanuel Macron en clôture du Beauvau de la sécurité. Pendant une heure, le chef de l'État a égrené une série de mesures pour transformer la police face à la transformation, je cite, de la violence. Doubler la présence policière d'ici 10 ans, la mise en place d'un contrôle parlementaire de l'action des forces de l'ordre ou encore l'instauration des plaintes en ligne dès 2023. Une loi de programmation et d'orientation sur la sécurité sera présentée début 2022. Quelques centaines de personnes rassemblées à la mi-journée devant le ministère de la Santé. Manifestation à l'appel de la CGT pour protester contre l'obligation vaccinale qui entre en vigueur demain pour les soignants. D'autres mobilisations sont prévues aujourd'hui sur tout le territoire. L'esplanade Johnny Hallyday, inaugurée ce matin à Paris en présence d'un millier de fans, de son épouse Laetitia et de la maire de Paris Anne Hidalgo. Une statue en sa mémoire a été dévoilée, une Harley Davidson perchée sur le manche d'une guitare. Florent Pagny, Calogero ou encore Catherine Ringer reprendront ses plus grands titres ce soir à l'Accor Arena en présence de 10 000 spectateurs. Et puis le retour de la Ligue des Champions en football ce soir et l'entrée en lice du LOSC qui reçoit à partir de 21h les Allemands de Wolfsburg. Ce sera à suivre en fil rouge dans les flashs sur notre.com. La météo demain et comme aujourd'hui, on aura encore de nombreuses averses orageuses du nord-est à l'Auvergne en matinée. Elles s'étendront ensuite jusqu'au sud-ouest à nouveau, au Jura et à la vallée du Rhône. Ailleurs, le temps sera un peu plus calme mais toujours pluvieux. Sauf en Corse et sur un quart nord-ouest où on aura droit à quelques éclaircies. Côté température, comptez 14 à 17 dans la moitié nord demain matin, 15 à 20 dans le sud. Dans l'après-midi, il fera 20 à 25 au nord, 25 à 30 au sud. RTL, 14h et 3 minutes. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal.
Merci Sébastien. On continue de parler de Johnny Hallyday.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Alors, on a entendu que je t'aime la chanson de Gilles Thibault avec François qui habite Deauville et qui adore Johnny. Et un autre François, toujours dans le Calvados, d'ailleurs, et c'est... Bonjour François.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes allé voir la statue de l'esplanade de Johnny ?
Non, parce que j'ai pas regardé, parce qu'en fin de compte, moi Johnny, c'était le Johnny qu'on a connu, qui est parti, et puis j'ai pas besoin d'une statue pour me rappeler de Johnny. Parce que c'est un phénomène, c'est le phénomène du XXe siècle dans la chanson française. C'est celui qui a fait amener les gens vers le rock'n'roll qui perdure et qui dure. Mmh. Et ça, c'est important. C'est pas simplement un chanteur, c'était un homme orchestre, c'est un organisateur, c'est un compositeur, parce qu'il a composé aussi, hein, ce n'est pas qu'un interprète. Et puis, il y a une chanson, parce que vous demandez à tout le monde, à moi, il y a la chanson que je retiens le plus, c'est Requiem pour un fou, parce que je trouve que c'est une des plus belles chansons de par la voix, de par la composition, tant musicale et de par l'histoire en même temps. Donc, c'est un personnage, c'était pour moi le TGV du rock'n'roll, mais il a fait aussi du rhythm and blues, et puis il avait commencé avec, pas n'importe qui, avec Jimi Hendrix, puisque dans les années 66, il a collaboré avec Jimi Hendrix, il a fait la première partie de certains concerts. Et sans oublier une chose, c'est un petit peu le conflit, la petite guéguerre, Antoine et Johnny, les élucubrations d'Antoine, et Johnny qui lui répond, cheveux longs et idées courtes.
Alors, voilà. On considère parfois que Requiem pour un fou, c'est presque une chanson anti-Hallyday. Qui avait tout pour dérouter le public du chanteur, mais qui par une forme de grandiloquence qui fait que ça l'a emporté. Et c'est Gilles Thibault encore, hein. C'est sorti le 10 février 1976, cette chanson.
Il a fait des reprises avec certaines chanteuses qui restent marquées encore, parce que moi, je suis émerveillé de voir comment lui, le taulier, savait se mettre à la portée des gens qu'il a invités sur scène. Mmh. C'est pas dû à tout le monde.
Oui, alors c'est l'histoire d'un homme quand même qui, refusant de perdre sa femme, l'a tué. Hein. Aujourd'hui, par exemple, cette chanson, elle serait politiquement incorrecte. Hein. Il est cerné par la police sur le lieu du meurtre. Voilà. Il y a des projecteurs, il harangue la foule. Et c'est un forcené qui sait que la mort viendra avec le lever du jour. Hein. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. C'est pour ça que c'est toujours intéressant les chansons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus écrire cette chanson-là.
Mais ceci dit, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire le film qu'on a vu aussi, qui était le film du début du siècle, donc j'ai perdu le nom, où je crois que c'est Le Jour se lève, où justement, il y a un forcené qui est dans son appartement et il sait qu'il va mourir à la fin.
Mais donc, vous avez parfaitement raison, parce qu'on fait souvent parallèle avec ce film Le Jour se lève, qui est un film de Carné, avec Gabin qui est meurtrier. C'est drôle ce que vous disiez, parce qu'effectivement, alors il est barricadé dans mon souvenir, dans son appartement, et pareil, il parle à la foule dans Le Jour se lève. Vous avez tout à fait raison.
Voilà, et ça reste. Pour moi, en tout cas, Johnny est quelqu'un qui, lorsqu'il arrivait, il avait un charisme. Mmh. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être Johnny. Il n'y avait qu'un Johnny. Et j'avais un ami qui est parti maintenant et qui était un Johnny Phil, j'appelle ça comme ça, parce qu'il fallait rien dire sur Johnny Hallyday, parce que c'était son dieu, c'était le seul qui comptait dans la chanson française pour lui. Et quand il est parti, eh bien, on lui a fait toute sa cérémonie sur des airs de Johnny, parce que c'était ma façon de lui dire au revoir.
Bah, écoutez, voilà, c'était Johnny, un bel hommage. C'est un bel hommage. Alors, écoutons quelques notes. Ça, je pense que la version qu'a sortie Damien Béchiot, c'est la version du Stade de France avec Lara Fabian, qui avait été exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'elle était. Faut pouvoir chanter avec Johnny. Tiens, écoutez. Non, mais ce qui est drôle, c'est que comment une époque peut permettre certaines chansons et comment une autre époque ne peut pas permettre d'autres chansons. C'est sûr qu'aujourd'hui, un homme qui a tué sa femme, il fait pas une chanson, fait pas une chanson sur ce thème. Olivier. Olivier ?
Oui, bonjour.
Je vous ai dit bonjour déjà tout à l'heure.
Oui,
vous savez que le principe de la radio, c'est on se dit une fois bonjour et puis après, on considère qu'on s'est dit bonjour jusqu'à la fin.
Je vous écoutais tellement que j'en oubliais que j'étais dans l'émission. Bon, les messages sur les réseaux sociaux. Franck nous écrit, Johnny, c'est plus qu'un artiste pour moi, c'est un monument, c'est comme un membre de ma famille que j'ai perdu il y a 4 ans. Pour Anne, cet hommage, c'est une nécessité. Et enfin, Ghislaine nous écrit, Bercy était sa deuxième maison, donc faire le mini-concert dans cette infrastructure, ça va de soi.
Mais c'est formidable les paroles de cette chanson, parce que je veux pas dire que je les redécouvre, je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée. Vous vous rendez compte? Je pense par exemple aux féministes, et pour le coup elles auraient raison, qui dirait c'est une apologie de l'amour macho qui va jusqu'à la mort de la femme, et effectivement ces paroles même sont folles, disons-le. Aujourd'hui, hein, je n'en ai pas pris conscience. Elle a fait de moi un fou d'amour. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée. Et en plus, elle a fait de moi un fou d'amour. C'est de sa faute. C'est de sa responsabilité. Si je l'ai tuée, vous vous rendez compte? Tout ce qui est véhiculé à travers des chansons. Voilà que je suis le porte-parole des féministes. Tout arrive.
Tout arrive.
Tout arrive. Il est 14h09. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Pour vous.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Aux Champs-Élysées.
C'est pas du tout Johnny, ça. Nous partons pour les Champs-Élysées. Nous partons pour l'Arc de Triomphe avec David, puisque l'Arc de Triomphe est en ballet. Et nous sommes avec Jean-Michel, plus exactement. Il est emballé par à la manière de Christo. Et effectivement, ça fait réagir, disons-le. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Comment trouvez-vous ? D'abord, est-ce que vous êtes parisien ?
Non, je suis rouennais.
D'accord. Donc vous n'avez pas vu de visu l'œuvre de Christo ?
Non, non, pas encore.
Même si je rappelle que Christo est décédé, hein. C'est à la manière de Christo, bien évidemment. Il est décédé en 2020, Christo. Mais oui. Il avait toujours rêvé d'emballer l'Arc de Triomphe. Donc c'est fait post-mortem.
Oui.
Mais qu'est-ce qui vous choque ?
Ben, ça me choque beaucoup, cet empaquetage de l'Arc de Triomphe. Ça me fait mal. Ça me fait mal.
Pourquoi ?
L'Arc de Triomphe est un monument national. Mmh. Alors, ce n'est pas le Pont Neuf, la Tour Eiffel ou le Grand Canyon du Colorado. Mais c'est un monument, c'est la tombe du soldat inconnu devant laquelle on se recueille chaque soir. Et cela change tout. Pour moi, c'est une profanation, un manque de respect, c'est une insulte. C'est un geste de déconstruction de notre histoire nationale, masquant l'histoire napoléonienne gravée sur l'Arc de Triomphe, et ce n'est pas un hasard en cette année du bicentenaire. Cette opération à 14 millions d'euros, un par jour, ça va durer 14 jours, doit soi-disant faire reculer les limites de l'utopie. C'est comme ça qu'on la justifie. J'estime qu'elle perce au contraire les limites de la bêtise et de la provocation. Voilà.
Alors les 14 millions d'euros, évidemment, c'est entièrement autofinancé, sans subvention publique, grâce à la vente d'œuvres originales de Christo, des dessins préparatoires, etc. Et c'était un rêve, entre guillemets, de Christo qui souhaitait, je l'ai dit, emballer un jour l'Arc de Triomphe.
Oui, mais qui n'avait pas commencé les démarches, d'après ce que j'ai lu, hein, parce qu'il savait que c'était impossible, c'était un seuil...
Ça va durer une quinzaine de jours, vous l'avez dit, c'est du 18 septembre, parce qu'en fait, c'est pas encore fini. Hein,
là, oui,
on est en train de l'emballer, je vous assure, vous passez devant place de l'Arc de Triomphe, c'est très étrange. Du 18 septembre au 3 octobre, c'est un rêve de jeunesse, et son épouse Jeanne-Claude a toujours été associée, était très proche de Christo. Elle avait une réputation particulière, d'ailleurs, Jeanne-Claude, d'être assez présente dans l'œuvre de son mari.
Oui, enfin, on a...
Assez directive, dirais-je.
Oui, enfin, je vois pas ce qu'un artiste bulgare vient perturber
Ça ne vous plaît pas.
Absolument pas, et je ne suis pas le seul.
Oui, ça c'est possible, mais il y a peut-être des gens qui aiment. J'ai vu Monique Younes, par exemple, elle adorait Monique Younes, qui est sur l'antenne d'RTL dans le service culture et patrimoine, et elle a beaucoup aimé. Donc tous les goûts, peut-être, sont-ils dans la nature.
Tout à fait, mais on raye d'un trait cet aspect particulier que je soulignais, à savoir l'aspect national. C'est une tombe tous les jours.
Alors elle est préservée, la tombe, hein, vous avez vu, hein, elle est complètement à l'égard de ça. Hein. Elle n'est pas emballée, la tombe, si j'ose dire.
Non, d'accord, oui, bien sûr, mais enfin on ne va pas se recueillir.
Et tous les jours à 18h, les ouvriers s'arrêtent. Ah, c'est du papier hygiénique pour vous.
Non, enfin...
Bon, vous n'êtes pas convaincu.
Non, je suis vraiment choqué, heurté, insulté par ce projet qui... Voilà.
Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre témoignage. Jean-Michel, à tout de suite.
Oui. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
.fr.
jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Jean-Michel n'aimait pas l'emballage de cristaux. Est-ce que David, qui est expert judiciaire en patrimoine, bonjour David, est-ce que David l'apprécie ?
Alors, je ne l'apprécie pas. Je serais moins virulent, je suis moins affecté que Jean-Michel, mais je ne l'apprécie pas et je suis resté dubitatif. J'ai trouvé cette arrivée un peu violente parce que on nous présente d'un seul coup aux médias l'Arc de Triomphe emballé comme un bonbon de Pâques, excusez-moi le terme. Et bon, bien évidemment, derrière cela, il y a un artiste, il y a une œuvre, ce que je respecte tout à fait. Mais je trouve qu'il y a une forme d'indécence et de narcissisme. Comment vous expliquer ça ? L'Arc de Triomphe, c'est bien évidemment un symbole patrimonial de notre pays. C'est une architecture très particulière. Elle en est même si particulière qu'on les anciens s'en souviennent. Dans sa folie meurtrière, quand Hitler avait occupé la France, il avait fait un défilé historique et il piquait l'ensemble du peuple français en disant « Vous voyez, je suis là ». Et je trouve que occulter cet Arc de Triomphe, pour moi, ça peut être un peu blessant pour un tas de personnes. Et j'avoue que moi, ça m'a un petit peu gêné, ça m'a chagriné. J'exprimais tout à l'heure la notion de narcissisme, parce qu'au-delà, 14 millions d'euros, ben, ça peut paraître démesuré dans une société aujourd'hui où il y a un tas de gens qui souffrent de choses et d'autres. 14 millions d'euros, je vais faire un raccourci, c'est une entreprise de 120 personnes sur un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros annuels, quoi. Voilà. C'est tout ça, je trouve ça indécent. Je trouve ça indécent. On a l'impression qu'aujourd'hui, il peut y avoir une élite qui, par un biais ou un autre, prend et dispose des biens qui appartiennent à un ensemble de la façon dont il le souhaite. Je trouve ça un peu dommage. D'autant que moi, je travaille souvent avec de nombreux architectes de Bâtiments de France, etc., qui sont des gens à l'esprit très ouvert, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui ont participé à des évolutions de monuments, etc., mais qui, le reste du temps, travaillent d'arrache-pied pour préserver l'ensemble de notre culture et de notre patrimoine. Alors, ça rejoint pas le sujet précédent quand je parle de culture, mais voilà, je reste dubitatif et je suis un petit peu chagriné. Voilà, au fond de moi, je suis un petit peu chagriné.
Merci de ce témoignage. Est-ce qu'on a le temps d'écouter Arnaud,
Bien sûr.
Qui sera le dernier auditeur. Bonjour Arnaud.
Oui,
vous habitez
bonjour.
Nancy.
Oui.
Quel est votre sentiment ? Vous l'avez pas vu de visu, sans doute encore.
Ben bien sûr que non, j'habite à Nancy.
Oui, ben vous pouvez venir à Paris, mais c'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas. Ben, je dis que les Parisiens, ben, ils ont bien de la chance d'avoir encore un artiste qui s'intéresse à la capitale et qui a légué effectivement 14 millions d'euros pour une ultime œuvre de sa part. Mmh. Et que Christo est connu dans le monde entier. Et que je pense que la majeure partie des gens dans les capitales européennes auraient été heureux de pouvoir accueillir Christo pour sa dernière œuvre. En comparaison, vous avez parlé de Johnny, là, je change peut-être de sujet, mais la statue qui a été inaugurée, on n'en sait pas le coût, et pour une personne qui doit encore plus de 400 000 euros à l'État, inaugurer ça devant Bercy, c'est aussi, je trouve, un peu, là, je trouve, pour la part, c'est indécent.
Parce que, alors là, je ne peux pas vérifier ce que vous dites, mais vous dites que Johnny doit de l'argent à l'État, c'est
oui,
ça ?
Johnny, oui, la veuve de Johnny doit encore...
Il ne faut peut-être pas rentrer là-dedans, Arnaud.
On parle de coûts, on parle de 14 millions d'euros.
Non, mais là, c'est des fonds privés.
Ces 14 millions d'euros ne sont pas versés à fonds perdus. C'est la France qui touche ces 14 millions d'euros. C'est pas acheté par les fêtes. Christo ne doit rien à la République. Je veux dire, quelque part, il nous offre une œuvre et on est encore là à se regarder le nombril, à critiquer, et dire oui, non, machin. Je veux dire, où il y aura plus rien. Non, mais le jour où il y aura plus de création et qu'on sera plus capable d'admirer une statue
ou quoi que ce soit, ben, on dira peut-être autre chose.
Eh ben, merci en tout cas, Arnaud. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est d'avoir tous les avis. J'ai envie de dire, tous les avis sont dans la nature et celui d'Arnaud était largement différent des autres auditeurs. Merci beaucoup. On est un peu pressé parce que c'est le débrief, figurez-vous. Il est 14h23 et c'est Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Éric Zemmour, épisode 37 aujourd'hui dans l'émission, avec cette proposition qui fait polémique.
Vous avez dit vouloir interdire les prénoms étrangers. Ce sont les prénoms étrangers ou seulement les prénoms musulmans que vous voulez interdire ?
Étrangers, pas seulement musulmans. Ce qui me gêne, c'est qu'au bout de 3 générations, on appelle encore ses enfants Mohamed. Mais je pense que ça a été une erreur aussi d'autoriser les Kevin et les Jordan.
Et là, forcément, en écoutant ses propos ce matin sur RTL, on se dit...
L'antenne est ouverte.
Et oui, coup de gueule d'Alberta au standard.
Bah moi, ça me fait doucement rigoler. Je trouve que c'est vraiment un délire raciste assez avancé de penser qu'en fait, on pourrait interdire en fait les prénoms qui sont soi-disant français. Et moi, la première question que je me pose, c'est ça veut dire quoi un prénom français ?
Et Salim a tenu à témoigner sur son prénom.
Je vous cache pas que dans les années 2000, quand je cherchais un travail, j'ai même rajouté un prénom français à mon nom. C'est-à-dire que j'avais gardé Salim, mais j'avais rajouté un prénom à côté.
Mais Annie ne comprend pas toutes les critiques entendues sur Éric Zemmour.
Monsieur Zemmour est en train de défendre nos valeurs, notre culture judéo-chrétienne, et je suis en osmose avec lui.
Et puis êtes-vous choqué par ces images de l'Arc de Triomphe enveloppé par plusieurs centaines de mètres carrés de tissu ? C'était le rêve de jeunesse de l'artiste Christo. Une analyse de Jean-Alphonse Richard ?
Ça fait cher le drap.
Ça fait cher, oui.
C'était vraiment très intéressant.
Aujourd'hui, mesdames, messieurs, hommage à Johnny Hallyday. L'esplanade Johnny Hallyday a été inaugurée ce matin devant l'Accor Arena et forcément on n'a qu'une seule envie, écouter ses chansons.
Quel est par exemple le disque que vous préférez, que vous aimez écouter ?
Ah, je pense une des plus grandes, c'est Que je t'aime. Réaliste, une chanson très réaliste.
Et une chanson qui vous inspire, Pascal. Des messages sont glissés pendant l'émission. Terminons sur cette déclaration d'amour.
Voilà ce que je dis tous les jours lorsque Jean-Alphonse Richard entre dans le studio. Mais bon, il ne répond pas pour le moment. Magnifique. Il ne répond pas pour le moment à mon amour.
Et Jean-Alphonse Richard n'est pas là.
Jean-Alphonse Richard, si on pouvait aller le chercher.
Vous ne pourrez pas faire votre déclaration.
Moi, je veux bien faire l'heure du crime, hein, si vous le souhaitez, parce que j'ai quelques histoires que je peux raconter. Mais si Jean-Alphonse Richard est dans la maison, qu'il nous appelle, il est 14h26.
Voudrait bien quand t'es toi.